Aujourd'hui, nous voulons rendre un hommage dans un esprit proche de celui du 11 janvier. Je suis Alose, je suis Baliste, je suis Brome, Chabot, Corifène, je suis Dragonnet, je suis Aiglefin, je suis Fanfre et Grenadier, Otus, Idmélanote, je suis Julienne et Loche et Muge, je suis Napoléon, mais je suis aussi Wananiche et Puypanga. Comme Martine Aubry à Lille, je suis Rouget. Je suis Sébaste et Tanche, Uranoscope et Vielle, je suis Xipho. Si vous ne les connaissez pas, armez-vous de patience et d'une encyclopédie. Ce sont tous des poissons. En effet, s'il est vrai que le 1er avril est le jour où meurt l'humour, c'est aussi le jour où les poissons sont traînés plus bas que terre. Une nouvelle vague doit nous guider et nous éclairer, nous faire avancer vers plus de tolérance, de respect mutuel, pour que cesse à jamais et pour toujours ces terrifiants massacres ichtyophobes répétés chaque année à cette date fatidique par des hordes en délire de mineurs incongrus, fanatisés par la lecture d'ouvrages impies qui les poussent au vice d'astrapie à j'aime lire. Ils vont, le cœur en fait, commettre l'irréparable, marquant leurs condisciples humains du sceau de leur famille, exhibant comme un trophée le cadavre pisciforme dans leur dos. Aujourd'hui, 1er avril 2015, disons ensemble non à cette réalité amère, celle de l'humour subi sur le dos des êtres qui se meuvent et croissent dans les profondeurs obscures des langueurs océanes. Oh. Disons-le haut et fort, et aux côtés de nos frères abranchis, les blagues du 1er avril, ça ne nous fait plus marrer.
Non.
On en a ras la nageoire. Pour lutter contre cette débauche d'humour que rien n'arrête, c'est un numéro un peu spécial des Gaunes que nous présentons aujourd'hui. Un numéro dont le ton ne sera pas à la rigolade inconsciente, mais à l'huile, comme il se doit. En somme, un numéro moins marrant que marin. Il n'est cependant pas question de se livrer à une longue harangue. Oh. Si l'ur n'est plus à la plaisanterie, il n'est cependant pas question de noyer le poisson. Rappelons-le, en ces temps de crise, le rire n'est cependant pas péché. Quelques entrefilets, de ci, de là, une gourmandise, un rire, c'est toujours ça de prix. Et c'est sur ce chemin difficile, cette ligne de crête vertigineuse entre sensibilisation et humour, que nous allons faire cette émission. Comme disait le grand philosophe Jean-Jacques Cousteau, le rire, je m'en baleine, faire réfléchir, c'est assez. Aujourd'hui donc, un numéro spécial sous le niveau de la mer, une équipe bouleversée pour répondre au mieux aux besoins de sensibilisation et d'amusement qui font notre spécificité. Un tsunami de nouveautés puisque nous avons tous échangé nos rôles. À votre service aujourd'hui en ordre inverse d'apparition. D'abord, celle dont on connaît l'amour pour l'océan et les intrépides hommes des plages qui l'emmènent à la nage vers des amours aquatiques et sauvages que chantait Jeanne Moreau. Sauf qu'elle, il la ramène à la nage. J'ai nommé la petite sirène de Transistor dont la chaude voix fait frissonner jusqu'aux méduses les plus frigides, Mathilde, qui nous parlera cuisine pour la simple raison qu'elle est une femme. Un qui ne change pas et dont la voix sera de nouveau parée de l'écho d'outre-tombe qui fait sa caractéristique, sa marque de fabrique, son côté spécifique et sa qualité esthétique, Romain, correspondant en direct du Sport Lyonnais, qui est d'ailleurs le seul à ne pas être à Lyon parce que la logique, c'est pour les faibles, comme dirait notre très chère Marie. Nous retrouverons ensuite la reine de l'andouillette, privée de son rôle traditionnel d'amuseuse de galerie et de papille. On ne sait toujours pas si c'est malgré elle que quand elle dit d'entouiller les cartes, on suspecte une contrepèterie. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est à l'histoire qu'elle applique son talent. Marie-Ève qui aime tous les fonds, qu'ils soient marins ou baptismaux. Pourquoi l'histoire, me direz-vous ? Eh bien parce qu'elle est une femme. C'est ensuite notre chef tel à tous, la déesse des profondeurs, la blanche magicienne des abysses, le raz-de-marée des rédactions, la mère supérieure des failles océaniques, qui cède l'histoire pour l'actualité à son corps défendant. J'ai nommé Marie, notre dictatrice bien-aimée. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait avoir des chouquettes plus souvent aux conférences de rédaction ?
Je tâcherai d'étudier la proposition.
Dois-je le préciser, si elle est notre chef, une chroniqueuse hors pair, c'est avant tout parce qu'elle est une femme. Enfin, un vague souvenir, une voix de gorge si profonde qu'elle fait passer la fosse des Mariannes pour un terrain de golf 18 trous, qui vous berce tendrement d'habitude dans cette émission. Sagace et avisé, Thomas s'est bien rendu compte de ce pouvoir soporifique. Et il agrémente habituellement ses programmes de jingles et d'extraits musicaux dissonants des années 80 pour vous réveiller. Bande de coquinous. L'émission spéciale d'aujourd'hui étant placée sous le signe du recueillement, je n'ai pas prévu de musique. Mais sachez que sinon, on aurait passé la maman des poissons en fond sonore pendant toute l'émission.
Ah bah oui, ça c'était une bonne idée.
Donc soyez reconnaissants de cette absence de musique.
Ouais.
Sous la supervision de Marie, il couvrira de son corps élancé la chronique actu. Pourquoi Bonjour. Sous supervision ? Parce que c'est marrant de faire croire aux femmes qu'elles commandent. Mais à série. C'est moi qui ai l'honneur de remplacer Thomas aujourd'hui, essentiellement parce qu'il connaît mon ichthyophilie immodérée et ma haine du 1er avril, qui confine à l'abnégation pour la mission sacrée.
C'est ça, c'est ça.
Pour vous aider à ne pas vous distraire, en ce jour où le rire facile est un risque à ne pas négliger, je lirai l'annuaire téléphonique de Lyon sur de la tectonique entre chaque chronique. Mais tout de suite, je vous laisse avec Thomary pour une page d'actualité. Pour commencer par toucher le fond, ce sont deux journalistes de BFM que je reçois. Pascaline du Rempart de la Tartine et Gérard Quentin Latsou, pour revenir sur ces résultats pour le moins inattendus des départementales de dimanche dernier. Bonjour à vous deux.
Ta gueule, le berger corse.
Il était grand temps que cette web radio confidentielle qui rigole sur le boudin, les tripes, les pieds de porc, qui regarde le monde tourner et qui crée des MOOC impressionnistes pour les grands-mères, soit réinvestie par des journalistes, des vrais.
2015, l'année du choix. Bonjour Pascaline.
Bonjour Gérard Quentin, vous êtes bien sûr BFM, le bureau fictif des ménagères, première radio d'information de France, de Navarre et de Cergy-Pontoise.
Et à la une de l'actualité, les résultats pour le moins inattendus des départementales.
C'est même un bouleversement considérablement profond d'une intensité inédite sur l'échelle de ma mère.
Et pour l'occasion, Pascaline en affiche tout de suite le logo qui va bien. Élection élective des élus qui ne servent à rien, sauf pour les handicapés, les couches des vieux, le bitume des routes et les carottes Vichy de la cantine du collège Louis Vuitton. Logo que, de toute façon, vous ne pouvez pas voir puisque c'est de la radio et c'est tant mieux parce qu'il était trop long.
Allez GQ, on reste focus. 2015, le show de l'année. Rebonjour GQ.
Rebonjour Pascaline, vous êtes toujours sur BFM, bistrot des fans de Modiano, première radio d'information de France, de Navarre et de Bure-sur-Yvette.
Et à la une de l'actualité, retour sur la victoire historique d'Europe Écologie Les Verts dimanche dernier aux élections départementales. La France est verte GQ ce matin, puisque le parti du bio et des escargots a remporté 1148 cantons sur 1995, soit 57,54% des cantons, c'est-à-dire plus de deux fois deux huitièmes des cantons.
Autant dire beaucoup.
Europe Écologie Les Verts arrive en tête à Paris et à Lyon, qui pourtant ne votaient pas dimanche dernier. Un basculement historique aussi révélé dès le mois dernier, en direct et en exclusivité sur BFM. Le Nord, traditionnellement connu pour son ancrage centriste et modéré, a voté vert marine. Le parti arrive également en tête dans 54 des 20 plus grandes villes de France, dont Massy-Palaiseau, Brive-la-Gaillarde et Saint-Valery-en-Caux. Un score historique donc, qu'en pensez-vous GQ ?
Absolument rien. 2015, le choix du choix, re-re-bonjour Praluline.
Re-re-bonjour GQ. Vous êtes encore sur BFM, Beyoncé featuring Moscato, première radio d'information de France, Hexagone, Province, Métropole et Corse compris.
À la une de l'actualité, une vague vert bouteille qui déferle sur la France. Pour mesurer l'impact de ce séisme politique, Pascaline, sans bouger de votre siège, on vous retrouve tout de suite en direct de Bordeaux où vous étiez avant-hier.
Oui, je ne vous entends pas, Christine, mais j'ai bien compris votre question. Il y a énormément de vent ce matin à Bordeaux. Le vent du changement, bien sûr, qui souffle. Putain, j'ai le micro qui se barre. Le vent du changement, disais-je. Et j'interrogeais d'ailleurs Marie-Pierre, buraliste place des Quinconces, à propos de la vague vert diabolomante. Et elle me disait justement ne pas avoir voté dimanche dernier. Elle était à la circoncision du baptême de l'enterrement de son bouvier bernois et d'ailleurs...
Ok, c'est chiant, donc priorité au direct et à cette déclaration exclusive BFM de Bernadette Chirac. Vous trouvez que j'ai l'air grognasse ?
2015, le choix dans la date de l'année. Bientôt au revoir GQ chérie.
Bientôt au revoir ma Aline d'amour. Vous êtes toujours sur BFM, bisous, fellations et mamour. Première radio d'information auprès des 15-95 ans, des ménagères cul-de-jatte et des profs de français à la retraite.
Et les réactions se bousculent au portillon de BFM à propos de la victoire spectaculaire et inattendue d'Europe Écologie Les Verts dimanche dernier. Le Premier ministre Manuel Valls, après avoir fumé un cigare, comme nous vous le révélions en exclusivité BFM, a déclaré « Je suis satisfait de ces résultats ». Le Parti Socialiste est peut-être dernier, mais sans moi, cela aurait été bien pire. Je crois que nous pouvons clairement nous en féliciter.
Plus sobre, comme à son habitude, Jean-Marie Le Pen a déclaré « Je suis Charlie ».
Et nouveau désaccord à Saint-Cloud, sa fille Marine Le Pen s'est quant à elle exprimée en ces termes « Je ne suis pas Charlie ».
Nicolas Sarkozy, dont le parti est arrivé deuxième dimanche dernier, a fait savoir qu'il se retirait de la vie politique. Enfin, François Bayrou a déclaré « Je suis libertine, je suis une catin. »
Nos analystes essayent toujours de savoir pourquoi.
Voilà, je crois que nous avons été des plus complets sur le sujet des départementales. Il est temps de refermer ce flash info spécial breaking news de la mort qui tue, hashtag fuck it télé, et de rendre l'antenne à ces grands quignols de l'ENS. Au revoir Pascaline.
Au revoir.
Alors tout de suite, mes petits poissons, quelques questions actues pour
pimenter
un peu cette journée.
Des questions actues.
Comme Lyon, c'est quand même assez ennuyeux et qu'on fait une émission sensibilisation destinée au grand public.
Bah, dis donc.
On a tenté d'élargir un peu la focale aujourd'hui.
Avec donc on va à Villefranche-sur-Saône.
Exactement. Merveilleuse
ville. Macon.
Non, alors par contre, on va à la capitale.
À la capitale,
avec un effet intéressant. Donc, quelle expo ?
On va à la capitale.
Alors, quelle exposition ? Mais actuellement à l'honneur à Capitale.
À Capitale ?
Des Lyonnais. C'est des Lyonnais qui sont à l'honneur à Capitale.
Alors, c'est une expo dans un musée, genre le Louvre. Genre, c'est un musée d'art ? C'est dans un musée d'art ?
Il y a une expo sur la lumière et sur la photographie, non ? Ça n'a pas un lien avec les frères Lumière, quelque chose comme ça ?
Alors, Marie-Ève est sur la bonne piste.
Alors, c'est lié au cinéma ?
Oui.
Oui.
C'est lié au cinéma, c'est lié à la lumière. Je pense que Marie-Ève avait presque tout bon, mais j'ai pas compris pourquoi elle s'est égarée sur le chemin de la photographie, comme ça, d'un pas vicinal et Prime Sautier.
Parce comme que, comme d'habitude, je n'ai que des moitiés de souvenirs et que j'ai du mal à reconnaître. Ah non, c'est peut-être Daguerre, puisqu'ils se partagent toujours la paternité de la photographie.
Il te l'a dit il y a 5 minutes, c'est à la moitié d'Alzheimer, mais quand même, enfin, bon, faut reconnecter, quoi. Enfin, donc, c'est les frères Lumière, c'est ça ?
Oui, alors il y a.
C'est pour fêter les 100 ans, quelque chose comme ça, c'est le centenaire de l'invention du cinéma.
Alors, je crois pas que ça soit le centenaire, ou alors c'est le 5e centenaire en 10 ans, ce qui est possible. mais en tout cas, il y a une exposition consacrée aux frères Lumière au Grand Palais du 27 mars au 14 juin, donc quand même une grande expo au Grand Palais.
Au Grand Palais.
Donc déjà, on parle de Lyon à Paris, ce qui est un phénomène bouleversant et à noter,
et hein,
pour
même,
autre chose qu'un braquage à la voiture Bélier, ce qui est d'habitude le cas. La maman des poissons, elle est bien gentille. Alors, deuxième question. Une question anniversaire.
Ah oui.
Donc, une loi bien particulière a été déposée à l'Assemblée nationale le 1er avril 2013. Et quelle était-elle ?
Une loi sur la pêche ?
Ouais, ça pourrait. C'est presque.
C'est une loi qui concerne toute la France ou spécifiquement Lyon ?
Alors, c'est une loi qui concerne spécifiquement l'Assemblée nationale.
Une loi sur le harponnage des raimentas.
Alors, est-ce qu'il y a des raimentas à l'Assemblée nationale ? Marie-Ève, je ne sais pas. Non, mais vraiment sous l'océan, quoi. Indice, c'était un 1er avril.
On leur a interdit de mettre des poissons d'avril sur le dos de leurs camarades de devant.
Je peux vous le dire, c'était le 1er avril 2013, un texte de loi dont l'intitulé était « Protéger les députés qui portent un nom d'animal aquatique dans le cadre de la préservation des espèces ».
Non, mais t'as lu ça sur le Gorafi, c'est pas une vraie proposition de loi.
Non, c'était une vraie proposition de loi qui a été déposée par les députés Jean-Frédéric Poisson, Jean-Marie Tétard, Franck Marlin et Philippe Goujon.
Ouais, tu te fous de notre gueule.
Non,
quoi.
Je te jure, c'est tous des députés UMP.
Oui, bien sûr.
Tous... Mais écoute, tu vérifieras. Donc, je peux te dire que Philippe Goujon est le maire du 15e arrondissement, député maire, déjà.
Oui.
Les autres, j'ai pas vérifié, mais en tout cas, c'est Jean-Frédéric Poisson qui a eu cette excellente idée de, vu qu'on le charriait, de déposer une loi pour protéger les députés qui ont un nom d'animal aquatique.
Enfin, ouais, j'ai cru que c'était une loi anti-requin.
Ça aurait pu être utile à l'Assemblée nationale, c'est vrai que ça aurait été pas. Thomas, ne me crois pas, hein, je vois que j'ai un manque de légitimité encore criant.
Clairement.
Il y a quelqu'un qui me croit ou pas ? C'est vraiment une loi qui a été déposée par ces gens-là qui existe vraiment. Hein.
Déjà, on t'écoute, c'est pas mal. Hein. Bon, après, on te croit, c'est autre chose. Hein.
Alors, du coup, on va tout de suite passer sur cette histoire finalement, puisque ça suscite assez peu de réactions positives. Et donc,
sur cette histoire, dans quel sens ? Oh, la transition est subtile ! C'est presque digne de Thomas.
J'essaie de rendre un double hommage au poisson. Et
dis donc
Thomas.
La mégère du bout, hein ? On va se calmer, c'est pas parce que je suis pas
animateur. Merci Marie, je m'y attendais pas, je m'attendais à ma chronique tout à la fin et effectivement merci de me réveiller.
C'est
attends.
Dans l'ordre habituel.
Alerte,
alors
Marie-Ève, c'est
maintenant, prépare-toi, attention, on va lancer le jingle, t'as le temps de te préparer, allez-y.
Aujourd'hui, c'est la révolution à Lyon. C'est cool, ça tombe bien, tout le monde sait que j'aime les histoires de baston, de félon et de pognon. Les Lyonnais sont toujours en avance. Déjà en 1786, ils font la révolution. Non, en fait, ça n'est que la révolution des canuts, ces ouvriers de la soie qui veulent toujours se faire remarquer. C'est la baston. Ils se font tellement remarquer que pour les récompenser, on les écrase, les félons. Et la crise économique de 1787-88 les achève en divisant la production soyeuse par deux, c'est le pognon et le pompon. Là où les Lyonnais sont vraiment en avance, c'est sur les trois ordres de la société et sur les cahiers de doléances. Le 14 mars 89 a lieu la première réunion des trois états dans l'église des Cordeliers. Clergé pognon, clergé bourse, non, ne tombons pas dans ce travers. On va laisser la grande Marguerite de Navarre raconter. Deux cordeliers de Niort, passant la rivière au port de Coulon, voulurent prendre par force la batelière qui les passait. Mais elle, sage et fine, les endormit si bien de paroles que leur accordant ce qu'ils demandouaient, les trompa et les mit entre les mains de la justice qui les rendit à leur gardien pour en faire telle punition qu'ils méritouaient. Tout est bien qui finit bien pour la batelière et aussi pour les clercs et les nobles de Lyon à leur réunion. Déjà en mars 89, ils proposent d'abandonner leurs privilèges pour résoudre les problèmes financiers du pays. C'est qu'on est progressiste à Lyon. Et qu'on sait aussi éviter les bastons avec du pognon. Enfin, tout le monde n'est pas progressiste. Surtout pas Monseigneur de Marbeuf, qui en plus de sa casquette d'archevêque de Lyon, est aussi ministre de la feuille des bénéfices, c'est-à-dire ministre des pots de vin. Il échange l'abbaye de Saint-Jacques, 9000 livres de prébende, pour la riche abbaye du Bec en Normandie, 60000 livres de prébende, et se fait plein de pognon. Mais à sa décharge, il ne cumule pas les mandats. Il se mêle de politique nationale et met, le vicelard, des bâtons dans les roues de Talleyrand en contresignant son arrêté de nomination comme évêque d'Autun. À sa décharge, c'était sur ordre du roi. Marbeuf finit par révéler à tous son côté vicieux en imposant de longs délais pour la réconciliation des prêtres jureurs et des prêtres réfractaires. Il veut sûrement voir une baston générale de prêtres dans son diocèse et mater tout ce beau monde. Bref, revenons à la révolution à Lyon. Ça finit par chauffer quand même. Quelques petites bastons populaires éclatent. Alors se forme une petite garde nationale pour tenir tout ce petit monde tranquille. En 90, l'Assemblée constituante à Paris fait de Lyon le chef-lieu du grand département de Rhône-et-Loire, qui sera guillotiné en deux en 1793. Mais pour le moment, c'est gentil la Révolution. Monseigneur de Marbeuf finit par s'exiler. Son remplaçant porte le joli nom d'Antoine-Adrien Lamourette. Il est lazariste et constitutionnel, donc félon, car pas reconnu par le pape. Il introduit le baiser Lamourette pour réconcilier les prêtres jureurs et les réfractaires.
Oh, c'est mignon.
La mairie de Lyon se radicalise à partir de 1791. Puis reviennent les Girondins modérés, à leur tour éliminés par les Montagnards, ceux de Paris cette fois. Lyon est assiégé à partir du 7 août 93. Baston général. Le 12 octobre, le Jacobin Barrère déclare « Lyon fit la guerre à la liberté, Lyon n'est plus ». La ville est débaptisée et renommée Ville Affranchie, ce qui est toujours mieux que Marseille, rebaptisée Ville sans nom, ça fait peur. 1600 Lyonnais félons sont fusillés ou guillotinés. Ce que les protestants n'avaient pas démoli la cathédrale Saint-Jean au XVIe, les Jacobins s'en chargent bien. L'industrie de la soie se porte au plus mal. Normal, elle a perdu tous ses clients nobles. La terreur s'installe plusieurs mois sur la ville qui se dépeuple. 1794, les Jacobins tombent. Oui, mais cette fois s'affrontent républicains et contre-révolutionnaires. Triomphe par chaos provisoire des premiers. Mais la population n'adhère pas vraiment à la République, sans être monarchiste convaincue pour autant. Elle veut surtout que revienne le calme et le pognon. Et moi, je suis contente d'avoir pour une fois fait une chronique entière, calme, sans être interrompue. Merci Marie.
On sent que lire la chronique sportive de Romain toute la semaine t'a quand même inspiré. Et donc, attendez, j'interromps un instant ce programme pour relayer le mail d'un auditeur à Louis Fine qui veut nous faire partager son opinion sous-marine. Il s'agit d'un gros poisson de la politique française, vous ne devinerez jamais qui c'est.
C'est qui ?
Alors c'est pas
Manuel
Dominique
Valls.
Strauss-Kahn qui n'a pas finalement été reconnu comme macro, hein, c'est Jean-Mauru Le Pen qui nous a contactés.
Oh.
Alors je le cite, « Mettez-vous dans nos branchies un instant, savez-vous ce qu'est être un poisson ? Eau douce, eau salée, qu'importe, c'est le même combat. Je vais vous dire le problème, c'est les marées noires qui nous pourrissent la vie. C'était déjà pas marrant de se reproduire avant, vu qu'on se les caille ici. Mais là, essayez pour voir de déposer votre semence sur les œufs d'une compagnie aimante dans le noir total. C'est pas facile, facile. Foi de morue, ça ne se passera pas comme ça. Ma fille, elle va vous montrer de quel bois on se chauffe. Et avec ses idées saumâtres, chez nous, croyez-moi, elle a le vin en poupe. La vague bleu marine au départemental, ça vous fera les pieds.
Voilà. Et le hareng sort.
Exactement. Mais c'était aussi, il y avait Dédé La Saumure aussi qui était candidat
Dieu,
au mail.
Mais je sais pas, depuis Francis Blanche, on n'a plus jamais fait de boutade comme ça, Marie.
C'est l'animation qui m'inspire.
Parce que je suis lucide, Mathilde, tout simplement. Enfin.
Déjà, il aurait fait à moitié en vieux François. On n'aurait rien compris. Il manque plus qu'elle roule les airs. Puis
allez,
on
va aller hein.
Quoi qu'il en soit, quittons un instant les fonds marins pour nous concentrer sur les tréfonds des classements nationaux avec les performances des sportifs lyonnais écaillés d'une main ferme de poissonnière bretonne par Romain.
La semaine dernière, c'était un peu une semaine banalisée côté foot. Pour cause de matchs internationaux, les ligues de football professionnelles lâchaient leurs joueurs. Mais les Lyonnais ont tout de même fait parler d'eux. Tout d'abord, Lacazette qui a inscrit son nom un peu plus dans l'équipe de France et surtout Fekir qui a dû choisir entre l'Algérie et la France parce qu'il a la double nationalité. Ses débuts face au Brésil ont été remarqués, mais il n'a vraiment pas de chance Fekir. Bah si, franchement, devoir choisir entre un coq qui chante sur un tas de fumier ou un fennec, je n'aimerais vraiment pas passer après lui dans les vestiaires. Loin des matchs internationaux maintenant, on notera le caprice de Mister Douillet, la diva du foot, l'éternel blessé qui doit vraiment avoir un fantasme pour les infirmières ou les infirmiers, qui sait. En effet, en plein match contre Nice, Johan Gourcuff a quitté le terrain sans prévenir personne, ni attendre un remplaçant. Le motif ? Une blessure. Oui, encore. Alors, où est-ce qu'il s'est fait bobo cette fois-ci, le petit Johan ? Le plus drôle dans l'histoire, c'est que l'arbitre n'a remarqué la disparition de Gourcuff qu'au moment où Mohamed Diatara est rentré sur le terrain pour le remplacer. Pendant 3 minutes, Lyon a donc joué à 10 sans que l'arbitre ne s'en rende compte. C'est dire si Gourcuff est un mec que l'on remarque. Contraste, vous avez dit contraste, mais si, entre l'OL féminin qui est en route pour un nouveau sacre de championne de France et le Loup qui s'engouffre un peu plus dans la zone rouge, moi je vois un sacré contraste. Les Lyonnaises possèdent 2 points de plus que le Paris Saint-Germain alors qu'elles ont toujours un match de retard. Autant dire que c'est vraiment bien parti pour le titre. Pour le Loup, c'est bien parti pour le titre de loser en revanche. Mais la fin du championnat, ce n'est pas encore pour tout de suite et l'espoir fait vivre les rugbymen. Un match très important les attend, face à Montpellier qui ne marche plus très bien en ce moment et qui a chuté à la 9e place. C'est l'heure du sursaut, messieurs. Et pour le clin d'œil de Romain cette semaine, on part du côté de la NBA comme souvent. Alors que les playoffs arrivent bientôt et que les Hawks d'Atlanta ont composté leur billet à l'Est, sur la côte Ouest, plusieurs équipes peuvent encore revendiquer le titre. Les Clippers, les Cavaliers ou encore les Spurs de Tony Parker, par exemple. Tony Parker qui est président de l'ASVEL. ASVEL égale Lyon, Lyon égale complot. Et là, vous vous dites que cette chronique est travaillée. Et pourtant, vous avez tort. C'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais vous retrouverez très vite Romain pour une nouvelle chronique sportive. Et d'ici là, n'oubliez pas, lavez-vous après le sport, sinon vous sentirez le koala.
Donc, c'est le moment des sorties. Alors posons l'immortelle question qui torturait déjà Nanette Workman.
Nanette Workman,
donc,
quand même.
À part égratigner des jaguars comme le voudrait Nanette Workman, que suggérez-vous comme sortie ? Mathilde, tu ne parles pas beaucoup depuis tout à l'heure, est-ce que tu as des sorties à proposer ?
Comment il dénonce, quoi ?
Oui, bah alors je vais profiter de mon plan sortie pour un peu introduire mon prosélytisme de bas étage que vous aurez la chance d'écouter tout à l'heure.
Ouais.
Alors, le vendredi 17 avril, là, je m'avance un peu quand même sur les plans sortie, mais bon. L'association L214, c'est une association qui défend les droits des animaux, organise un repas végétalien et coréen au restaurant La Corée, qui est ouvert aux sympathisants et aux simples curieux.
Oh,
et
ça se passe. Mathilde,
bah, si des gens veulent m'accompagner, voilà, ça se passe pas loin d'ici, au 40 avenue Jean Jaurès, et vous pourrez vous inscrire sur leur page Facebook. Ouais.
Donc, qui veut aller manger des légumes bouillis avec des bridés, voilà. Alors
quoi.
Maintenant. Enfin, c'est sympa. Non, mais voilà, des légumes avec des baguettes, donc ça glisse, c'est chiant. Donc, Marie-Ève, peut-être que tu peux compenser avec un plan viande en sauce, s'il te plaît.
Ah non,
tout
pas
suite.
Un plan viande en sauce, un plan chocolat. Je vous invite dimanche prochain, donc dimanche de Pâques, comme tout le monde le sait, à venir assister à l'arrivée des cloches depuis Rome au parc de Gerland. Le dimanche matin, attention,
c'est
il faut se lever tôt.
Ça
hein.
veut dire quoi, Marie-Ève ?
Elles arrivent en volant, elles arrivent.
Mais
en...
tout à fait, mais c'est la légende est du vrai. Hein. Non, mais je vous promets, les
mais
cloches
alors, juste
vont
avant,
arriver
y a des trucs
à Lyon.
Qui circulent dans les rangs, enfin, je veux dire des substances pour que
non,
vous
c'est les cloches qui
arriver.
Ramènent le chocolat parce que. normalement là on est en carême, on est privé de chocolat.
Voilà.
Normalement.
Et donc on t'a fait croire ça depuis que t'es enfant.
Et mais jamais oui, mais j'y vais maintenant, c'est une, vraiment une première.
Alors moi j'ai une question
là,
par rapport à, je veux dire, t'es protestante, est-ce que pour toi les cloches viennent pas d'Allemagne? Tu vois, enfin je sais pas, de là où Luther il est mort, enfin tu vois un truc un peu.
Non. Oui, sauf que je suis aussi très impliquée dans le mouvement œcuménique que j'ai découvert depuis quelques années. Je me suis
rendu
compte que
t'as découvert que le chocolat venait de Rome, t'es devenu œcuménique.
Et qu'il arrivait vraiment par des cloches dans le ciel, etc.
La reconnaissance du ventre avant la crise de foi. Ça va, non, c'était. Non,
la crise de foi a précédé la gourmandise.
Mais on n'écrivait pas foi pareil, donc je suis. Vraiment, tout le monde m'en veut aujourd'hui. Je vous déteste tous.
J'avais compris, j'essayais d'enchaîner, c'est tout.
Je déteste tous. Marie, une suggestion, s'il te plaît.
Ouais, moi aussi, je suggère d'aller manger des légumes avec des baguettes.
Mais à Villeurbanne.
À Villeurbanne. Donc c'est sympa, voilà, on peut choisir son camp.
Mais oui, alors c'est asiatique aussi, c'est un très très bon restaurant de ramen. Alors. Ok, ils font des ramen, mais ils font surtout un putain de dessert. En fait, c'est un tiramisu, haricots rouges, thé vert. Ok, ça a l'air absurde dit comme ça.
Mais non, il y a des
c'est
glaces
délicieux.
Haricots
alors,
rouges et des glaces thé vert, donc ouais.
D'abord, est-ce que c'est des Italiens asiatiques? Parce que le tiramisu, c'est pas franchement voilà.
Mais ça vient de Rome aussi, non?
Mais c'est œcuménique.
Attends, je crois que... Mais Marie-Ève, tu crois que tout vient de Rome, en fait?
En volant, le tiramisu arrive comme ça, il est porté par des cigognes. Oui. Oui, Marie.
Il atterrit dans ton assiette.
Comme dans les Schtroumpfs.
Ah, ok, Wally.
Bon, de toute manière, en juin, je vais aller à Rome pour vérifier tout ça. Donc, je vous ramènerai les conclusions de mon enquête l'année prochaine. D'accord ?
Génial. Mais on peut en faire une émission sur Transistor, je pense, hein, ouais.
24 heures à Rome avec Marie-Ève.
Aujourd'hui, on va chercher les cloches.
Dans lesquelles je vais
faire un quart de Suisse qui a bien voulu m'indiquer leur étable, leur nid, là où elles pondent.
La vache Milka, volante.
Elles sont avec le lapin de Pâques qui va aux États-Unis. Super sympa.
Avec les gardes suisses, c'est pas trop les cloches. Donc Marie, c'est quoi le truc? Donc un tiramisu à la tomate et aux haricots.
Au thé vert et aux haricots. Au kawali. Alors faut aller jusqu'à Villeurbanne, ok? Faut aller jusqu'à Charpennes, certes. Mais voilà, c'est okay. Tout à côté du métro. C'est très simple d'y aller en métro B.
Très bien, donc un parcours sécuritaire pour une indigestion nouvelle et exotique. Thomas, toi, est-ce que tu as quelque chose d'un peu... genre...
Alors, un peu plus artistique, ouais. Voilà, et puis comme
c'est
vous le savez...
C'est pas artistique, le tiramisu de thé vert à haricots rouges, c'est expérimental.
C'est de l'art moderne ou un ready-made, je sais pas.
Je pense que ton tiramisu est aussi artistique que le plan sorti de Marie-Ève intéressant. Mais alors, moi, j'ai un plan sorti artistique.
Il est frustré parce que c'est pas lui qui se prend les ventes depuis tout à l'heure, vous voyez. Dès que c'est moi qu'on bâche, il se sent mal, il manque d'amour. Alors vas-y.
Un plan artistique. Et comme vous le savez, chers auditeurs, si vous êtes fidèles de Transistor, je passe mon temps à regarder le monde tourner. Alors, je vais vous proposer un plan sorti d'Orléans, très actualité internationale. Pour ça, je vous emmène à la galerie Item, où jusqu'au 30 avril, vous pouvez assister à l'exposition photo « Exilé de Birmanie », signée Hugo Ribs. Après avoir fui la guerre ou la pauvreté, hein, aujourd'hui, il y a environ 2,5 millions de migrants birmans qui vivent en Thaïlande. C'est une véritable manne pour l'économie du royaume. Il constitue une main-d'œuvre corvéable à merci, dont tirent profit les secteurs de l'industrie, du tourisme, mais surtout le marché du sexe. Et l'exposition d'Hugo Ribs, elle est à la fois un documentaire sur la diaspora birmane et c'est surtout une vraie belle exposition de photos. La galerie Item, c'est au 3 impasse Fernand Ré, dans le premier arrondissement, et l'entrée est libre.
Bah c'est vraiment super sympa d'avoir eu que des chroniques extrêmement motivantes. Donc on a le repas végétalien, le tiramisu thé vert boudin, les cloches qui volent et la diaspora birmane et le marché du sexe des moins de 12 ans. Donc vraiment c'est super sympa. Voilà, sinon si vous voulez pas passer une semaine de merde, vous pouvez aussi sortir à l'aquarium de Lyon qui est dans le thème et dont on ne sait pas vraiment qu'il existe parce qu'il est pas vraiment à Lyon. Mais c'est très sympa, donc je crois que c'est 13 euros pour les majeurs, pour les petits qui écoutent Transistor. Franchement, allez plutôt voir l'exposition sur les enfants birmans, vous apprécierez d'aller à l'école. Et c'est bien fait pour votre gueule. On parle de poissons depuis tout à l'heure, interrompu par diverses choses, hein, donc des recettes gastronomiques, du marché du sexe, de la mauvaise ambiance, enfin tout ça. Donc déjà, parler de poissons, c'est un thème assez déprimant sans tout le reste. Et ce serait déprimant pour une chronique de recettes, une chronique gastronomique. En effet, soit on aime le poisson et à cuisiner c'est cher et ça pue, soit on n'aime pas le poisson et en plus on trouve qu'il y a beaucoup trop d'arêtes. Donc franchement, c'est bof. Mais alors réjouissez-vous, on a quelque chose, on a trouvé une idée qui va rendre le poisson vraiment sympathique et sexy. C'est une chronique culinaire végétalienne de cuisine lyonnaise. Donc maintenant, je voudrais un wap wap pour Mathilde.
Wap wap.
Et un jingle.
Thank you.
petit jeu de chaise musicale me retrouve à la rubrique gastronomie lyonnaise.
C'est la rombière.
Bah ouais, non, mais tu vois, mon amour de l'andouillette, des tripes et autres bugnes a enfin été entendu par le sieur Lacombe. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en réalité, c'était sa place que je convoitais secrètement. Et oui, chers auditeurs, je rêvais de vous faire jouer avec l'actualité. Comme je n'écoute jamais rien de ce qu'on me demande de faire, une question pour vous autour de cette table. À quelle journée internationale avons-nous encore eu droit ce vendredi 20 mars dernier?
La journée internationale du steak pas cuit.
Non, c'était la journée internationale sans viande. Mais moi,
j'étais presque.
Ah mais oui. Attends, moi comme j'avais pas fait les courses, j'ai fait une journée sans viande, mais franchement, j'ai pas fait exprès. Je m'en veux un peu maintenant.
T'as pas mangé en fait, c'est ça?
Si, j'ai mangé des pâtes.
C'était carré, il a jeûné. Mais il a jeûné, c'était vendredi de carré.
Je pense que c'est pour ça.
En fait, je suis végétalien et chrétien, mais malgré moi.
Oui, alors moi j'aimerais vous faire découvrir le végétarisme et le végétalisme, mon mode de vie, autrement que comme une contrainte annuelle et comme un discours moralisateur trop vite oublié le lendemain. Chers amis végés qui vivez dans la capitale de la Rosette, aujourd'hui vous allez découvrir mes idées pour cuisiner lyonnais et végé. Chers amis omnis, pourquoi ne pas essayer 1, 2, 3 jours par semaine de ne plus manger d'animaux? Pourquoi ça, me direz-vous? Parce que l'élevage intensif épuise nos ressources, pollue notre eau, nos terres, notre air, est responsable de la déforestation, d'une répartition inégalitaire des aliments à l'échelle mondiale, cause la souffrance, la mort violente de 65 milliards d'animaux chaque année. Si ça ne vous a toujours pas convaincu...
Ce qui est bien, c'est que là, on voit que tu as fait ça sans le côté moralisateur. Oui, moi, j'apprécie.
Alors, si ça ne vous a toujours pas convaincu, pourquoi ne pas le faire aussi pour vous régaler? Alors, pour préparer cette chronique, j'ai consulté les non-végés autour de moi, mais je ne me suis pas uniquement aidée d'initier au lait d'amande. Bah oui, il y a autour de cette table une omni convertie à mes délires de bobo qui prend le meilleur des deux mondes et étale son sous-jacent citron sur son beefsteak.
Ah. Mais quelle horreur!
Ah. Alors, c'est toi, non. Marie?
Mais je fais pas ça, je les mange séparément.
On a l'impression que c'est la dénonciation, quoi. C'est elle.
Non, je me suis tournée vers le plus sceptique de tous, un de ceux qui frissonnent rien qu'en entendant le mot tofu.
Ouais, mais je suis une fausse sceptique.
J'ai nommé Florent.
Une fausse sceptique.
C'est
pour ça que tu sens pas très bon, certainement.
Et j'ai changé de genre aussi dans le procédé.
Mais vous êtes obligé d'expliciter cette blague, sérieusement.
Ouais. Donc,
bon, alors j'ai nommé Florent, qui dans son grand professionnalisme n'a pas manqué de me donner de nombreuses idées de recettes végétales inspirées par la gastronomie lyonnaise. Florent, si l'histoire ne marche pas pour toi, tu pourras toujours devenir un chef végé, puisque en exclusivité, sa recette de salade lyonnaise, vous êtes prêts, complètement végétalienne. 1. Disposez dans une assiette une bonne poignée de salade. 2. Disposez dans une assiette une bonne poignée de croûtons. 3. Régalez-vous. Alors.
C'est sympa, c'est quand t'enlèves les trucs pas végétaliens d'une salade lyonnaise.
C'est hyper novateur, quoi. Là, on est à l'avant-garde de la nouvelle cuisine.
Alors, c'est aussi la recette des fauchés, en fait, puisqu'il a expliqué lui-même.
Mais non, c'est minimaliste, tu vois. C'est
dépouillé, c'est Ikea. Ah,
alors, non.
C'est la cuisine de Schbleut.
Donc, au menu ce soir, plutôt soupe à l'oignon, tofu murette, andouillette végétale et gratin dauphinois. Bon, alors, on commence par la soupe à l'oignon, et là, c'est très très simple. On fait revenir les oignons dans un mélange de beurre végétal et d'huile. On saupoudre avec de la farine, on mouille avec de l'eau chaude et du vin blanc, on assaisonne. On couvre et on laisse bouillonner doucement pendant 20 minutes. On se gaffe de croûtons, évidemment. Pour le tofu murette, vous allez dans les magasins asiatiques de Guillotière, vous achetez un bon carré de tofu bien frais et vous le faites poêler dans une bonne sauce au vin rouge avec du bouillon végétal, de la sauce magie, des échalotes, des petits légumes grillés, les options ne manquent pas. Alors pour l'andouillette végé, alors là je suis obligée de dire qu'il y a copyright.
Est-ce que t'as pris l'anus d'une carotte? Parce que moi c'était comme...
C'est
la liste d'un cochon normalement, tu vois. Donc je me demande quelle partie tu prends du légume.
Non, je me suis inspirée très librement d'une idée de Florent, une andouillette végé. Donc vous mettez dans un mixeur des haricots rouges, quelques pincées de sel, un demi-oignon et des herbes aromatiques. Vous mixez le tout, vous mettez la préparation obtenue dans un saladier, vous diluez un cube de bouillon végétal dans 2 cuillères à soupe d'eau chaude et vous ajoutez à la préparation. Vous ajoutez la farine et vous mélangez jusqu'à obtenir une pâte. Et là, ça devient sexy parce que vous allez former des saucisses sur votre plan de travail avec cette pâte que vous obtenez.
Et alors là, on n'est pas filmé, mais si vous voyez, voilà, chers auditeurs,
il y a un geste,
poignet qui est...
Exactement, vous allez former des bonnes grosses saucisses.
On voit qu'elle a l'habitude.
Vous pouvez les faire bouillir dans de l'huile ou les enduire de moutarde.
Ça s'appelle pas bouillir, ça s'appelle frire, en fait. Du coup, ça perd un peu le côté diététique sympa, quoi.
C'est le problème du 1er avril, on n'est pas tous spécialistes de ce qu'on dit, donc là, c'est flagrant.
Ou alors, vous pouvez les enduire dans de la moutarde et de la chapelure et les passer au four.
Et ça ressemble vraiment, du coup, il y a illusion, t'as l'impression d'avoir une andouille
en
face de toi.
Oui, effectivement. Non, ça a une très chouette.
Je pense qu'il y a l'impression d'en avoir même un sacré paquet. ça devait être fait, je suis désolé. Je m'excuse pour cette blague.
Alors vous pouvez servir ça accompagné d'un bon gratin dauphinois que vous pouvez faire avec de la crème de soja, du sel, du poivre, de la muscade et gratiner ça avec de la chapelure. Ouais. En dessert, pour faire plaisir à Marie, une délicieuse tarte à la praline garantie oui. sans cochenille. Vous pouvez, vous savez ce petit insecte dégueulasse qu'on écrase pour donner cette oui. couleur rouge un peu suspecte à votre tarte. Alors oui, vous pouvez à la Croix-Rousse, pas loin de la place avec le gros caillou moche. J'ai jamais compris pourquoi c'était une attraction.
La place du gros caillou.
Voilà, j'ai jamais compris en quoi c'était.
Qui s'appelle place du gros caillou.
Oui, exactement.
Parce que tu n'as pas de sensibilité.
Au caillou. De sensibilité géomorphologique.
Artistique, oui. géomorphologique.
Mais on est dans le végétal, pas dans le minéral.
Tu t'intéresses à rien tant que c'est pas végétal.
Il y a une petite boutique qui fait de la...
Je ne mange que des gravillons. C'est très très bon. L'andouillette au calcaire.
Bon, il y a une petite boutique qui fait de la praline qui est colorée au paprika. Bon, alors peut-être que tout ça vous aura toujours pas convaincu qu'on peut aussi manger végé parce que c'est bon. Alors j'ai un dernier argument. Je sais que vous êtes déçue de m'avoir entendue être si sérieuse en parlant de cette cause qui me tient à cœur. Je sais que vous attendiez à bien plus de blagues sur les bonnes grosses
putain,
saucisses.
La gueule du sérieux, quoi, c'est pas possible.
Et que la chronique est bien plus sale quand c'est Marie-Ève qui nous explique comment rouler des quenelles. Alors je vous laisse avec une dernière bonne raison supplémentaire d'essayer la cuisine végétalienne ou végétarienne pour un repas ou pour une vie. Selon une étude menée par des chercheurs de l'université de Berkeley, les végétariens auraient une vie sexuelle plus active que les mangeurs de viande, car un régime à base de plantes entraînerait une amélioration de la libido. Alors moi, franchement, sans vouloir desservir la cause...
C'est constaté assez souvent ouais. chez le lapin ou la vache, de nous ouais. entièrement végétarien.
Exactement, ouais. Alors sans vouloir desservir la cause...
Un gros problème en Suisse, il y a des viols de joggeurs et d'alpinistes régulièrement, c'est terrifiant, ça c'est le régime végétarien.
Alors moi franchement je me suis demandé si c'était vrai ou si c'était juste parce qu'on est très peu et que je dois peut-être un petit peu bouleverser la moyenne, voilà, moi je pense que c'est plutôt l'impact de mon mode de vie sur la population voilà. végétarienne. Voilà.
Voilà, donc j'ai envie de citer une phrase de Confucius pour finir cette chronique gastronomique. Quand on devient végétalien, tofu le camp. Voilà. Merci pour Confucius. Quitter un instant le monde de la pêche et celui plus sombre encore de la cuisine végétalienne en retrouvant notre invité. Depuis le début de l'année, nous évoquons souvent, et nous nous en amusons, du fait que Lyon est la capitale européenne de l'échangisme et pas celle de la grammaire apparemment vu la construction de ma phrase. Donc, nous le savons, cela a suscité des attentes. Ah, on peut se dire qu'en tant qu'émission qui reçoit des associations, on aurait pu voir quelque chose. L'échangisme s'organise sans doute dans des clubs.
Très mal barré.
Donc c'est pour répondre à ces attentes, ô auditeurs passionnés, que nous avons invité une association dont l'objectif est de tirer son coup avec d'autres amateurs.
Oh là là là.
Il fallait bien en faire une quand même. Et pour nous en parler, nous écoutons donc Gérard Avon, qui représente les arquebusiers du Lyonnais. Donc nous recevons Gérard Avon qui représente l'association Les Arquebusiers du Lyonnais.
Année de création de l'association
1966.
Nombre de bénévoles
80 à 90.
Adresse du stand de tir
Avenue du Parc à Neuville-sur-Saône.
Et les horaires
9h midi, 14h 18h, tous les jours sauf le dimanche, fermeture à partir de midi.
Donc bonjour Gérard.
Bonjour.
Alors on a entendu votre voix chaude au début de l'émission déjà, une fois pour une remarque qui était très appropriée sur les requins de l'Assemblée nationale, moi j'ai beaucoup aimé, vous êtes le seul à être dans le thème, donc je vous aime déjà parce que tous les autres...
Voilà qui me flatte.
Voilà, les autres ils font rien qu'à mettre des bâtons dans les roues.
C'est pas vrai, j'ai sorti le hareng sort avant. C'est...
Non, tu lui as piqué une bonne vanne, c'est différent. Mm-hmm.
Exactement, elle est à la page 7 de mon script, donc merci. C'est donc une association de tir, les arquebusiers du Lyonnais.
Oui.
Donc quelle est la spécificité de votre association?
Eh bien c'est de tirer aux armes anciennes.
Donc les armes anciennes, ça veut dire à partir de,
bonne question.
De quand
bonne
et jusqu'à question. Quand surtout.
Alors je vais vous dire ça, j'ai préparé.
Ça c'est bien parce que vous voyez Mathilde par exemple, elle l'a pas fait.
Ben oui, j'ai vu ma voisine. Oui. À partir de quelle date peut-on dire qu'une arme est ancienne ou moderne?
Oui.
Quelle différence y a-t-il entre armes à feu anciennes et historiques, etc., etc. Il n'y a pas de réponse rigoureuse à ces questions.
D'accord.
Alors, pour certains, les armes à feu anciennes commencent vers 1450, avec les armes à chargement par la bouche et les premiers mécanismes de mise à feu avec la platine porte-mèche. Ils vont jusqu'à l'apparition des premières armes à feu à chargement par la culasse, utilisant les premières cartouches métalliques à poudre moderne sans fumée, c'est-à-dire vers 1874.
D'accord, mais du coup, c'est une catégorie spécifique de tir sportif ?
Oui.
C'est différent. Enfin, déjà, qu'est-ce que le tir sportif en fait ? Parce que moi, je dis ça parce que j'ai regardé sur les internets. Mais
on va aller dans vos questions. Alors, le tir, est-ce un sport d'abord ?
C'est vrai.
Ah oui. Ben, écoutez, moi, je vous conseille d'interroger Émile Littré, Le Petit Larousse et Pierre de Coubertin.
Oui.
Alors, voici ce qui est.
Alors, l'important, c'est de participer. Donc, si l'important, c'est de participer, c'est un
mais
sport.
Mais mieux que ça, vous allez voir ce que dit Pierre Coubertin plus tard. Vous allez voir ce qu'il dit.
Plus vite,
alors,
plus haut, plus
selon
fort.
Le dictionnaire d'Émile Littré de 1883, édition Hachette à Paris, sport est un mot anglais issu du français d'esport, signifiant amusement et désignant tout exercice de plein air, tel que course, canotage, tir à l'arc, gymnastique, escrime, etc., etc. Alors, aujourd'hui, selon le Petit Larousse, sport désigne des exercices physiques sous forme de jeux individuels ou collectifs pouvant donner lieu à des compétitions en observant certaines règles. Quant à Pierre de Coubertin, ça, personne ne sait.
Oui, il y a beaucoup de suspense maintenant, on veut savoir. Quand...
Là, on est gardé pour la fin. Quand vous faites des notes de bas de page à chaque fois, je suis très impressionné.
Le rénovateur des Jeux Olympiques, vous le savez, vous êtes spécialiste du sport. Il a été 7 fois champion de France de tir au pistolet et il imposa en 1896 sa discipline de prédilection, donc, dès les premiers Jeux Olympiques modernes d'Athènes, et ce d'autant mieux que le tir sportif était à l'époque mondialement prisé. Aujourd'hui, il faut le savoir, le tir sportif est devenu, à l'échelle mondiale, le deuxième sport individuel le plus pratiqué derrière le golf.
D'accord, mais alors est-ce qu'à l'époque de Pierre de Coubertin, ça avait quand même une utilité pratique, c'est qu'on pouvait encore faire des duels. Aujourd'hui, le tir sportif...
Alors, contrairement à ce que l'on pense, il y a eu très très peu de duels. Mais dans les familles très aisées, riches, on pouvait se tirer dessus si on avait envie.
Voilà, maintenant on ne peut plus. Je veux dire, maintenant on a envie de tirer sur quelqu'un, on ne peut plus.
Et je vous le déconseille vivement, pour répondre à votre question. Le tir est un formidable exercice de maîtrise de l'esprit du corps.
Oui.
Il faut vous transformer en statue, il n'y a rien à faire. Il exige une profonde concentration pour aboutir à une parfaite domination de soi. Donc le tir, c'est d'abord une épreuve contre soi-même, avant d'être une épreuve contre les autres compétiteurs. C'est donc bien un sport.
D'accord, mais alors du coup, donc ça c'est le tir sportif en général. Mais est-ce que le tir sportif, donc à l'arme ancienne, c'est quelque chose de répandu ou c'est spécifique à votre
association ? Non, c'est très peu répandu. Parce que c'est très difficile. Et il faut manipuler de la poudre ancienne, calculer ses charges, un coup ça marche.
Ça, faut préparer ses...
Un coup ça marche pas.
Un coup ça fait long feu,
alors les longs feux avec les armes à silex, ça part quand ça veut. Je vous dis pas, à l'époque...
C'est pareil.
Avec les...
Non, je suis désolé, mais vraiment, je me retiens.
Vous tirez à l'arme ancienne ?
C'était un mauvais jeu de mots.
Il a pas enregistré.
En somme, il faut être mathématicien pour faire...
Non, il faut être aventurier, parce que faut faire attention pas vous faire exploser l'engin dans la figure.
C'est mieux.
Voilà.
D'accord. Mais du coup, c'est pas vraiment amusé. Donc le but, c'est d'acheter des armes anciennes et de s'en servir ou de recréer des armes comme les armes anciennes.
Les armes anciennes, vraiment anciennes de qualité, les belles armes, ça coûte très cher. Mm-hmm. Tout le monde ne peut pas se les payer. Oui. Récemment à Lyon, il y a eu une vente aux enchères d'une paire de pistolets qui avait été offerte par Bonaparte sous le consulat au général d'Allemagne, qui je crois était d'origine lyonnaise. Et bien donc Napoléon a récompensé ce général en lui offrant une paire de pistolets d'honneur.
Oui.
Bonaparte a inventé les armes d'honneur avant la Légion d'honneur, parce que ça coûtait trop cher. Et il les a commandées chez Boutet. Et c'est cette paire de pistolets qui est extraordinaire, sans coffret, sans rien, sans accessoires. C'est vendu aux enchères 160 000 euros à Lyon.
Ah oui.
Alors bon, autant vous dire que moi, ça, je peux pas.
Oui.
Bon.
Mais si c'est d'honneur, c'est comme la Légion, on peut rien faire avec.
Non, tu les accroches sur ton veston.
Ces pistolets d'honneur, parfaitement, c'était une paire de pistolets d'officier qui fonctionnait parfaitement bien.
D'accord.
D'une manière générale, si vous voulez, les armes anciennes sont plus élégantes que les armes modernes, c'est vrai. Elles sont souvent magnifiquement décorées et gravées.
Mais du coup, vous disiez tout à l'heure que c'est plus dangereux de tirer avec des armes anciennes qu'avec des armes récentes.
Ah oui. Alors... manipuler une arme, c'est dangereux. Sauf si elle est sur la table, déchargée, tout le monde peut la prendre, mais c'est dangereux. Donc Il faut apprendre la manipulation d'une arme, apprendre à s'en servir comme vous apprenez à conduire une voiture.
D'accord. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple, une arme à feu insolite, par exemple quelque chose qui ne se fait plus, qui a disparu, un truc un peu absurde qui existait à un moment et qui n'existe plus ?
L'évolution des armes a été très longue. Et surtout, il y a eu tant d'inventeurs et des inventeurs bidons qui ont inventé toutes sortes de choses, qui n'ont pas eu de succès d'ailleurs, qui n'ont jamais été retenus ou par les armées, ou par les chasseurs, ou pour les tireurs. Mais je dirais qu'à l'heure actuelle, les armes anciennes ne sont plus fabriquées, sauf les répliques par ces industriels italiens.
D'accord. Et alors, pour finir, avant de laisser la parole donc à ces charmants jeunes gens autour de la table qui vont vous poser des questions super intéressantes, je suis sûr que Mathilde aura des questions très intéressantes sur la chasse au tofu à l'arme ancienne.
La chasse au...
au tofu.
Diable, mais qu'est-ce donc ?
Ah, c'était des petites galettes de lait de soja. Qui remplace la viande chez ces gens-là. Ça court librement dans les champs en Asie, je ne sais pas comment on les chasse. C'est pour ça que je pense qu'il y aura une question. Donc ça fait longtemps que vous êtes dans cette association, vous ?
15 ans.
Pourquoi avez-vous choisi cette association et pas une autre ?
Parce que j'avais acheté quelques armes, quelques répliques d'armes anciennes qui m'avaient plu, le hasard. En passant dans la boutique d'un armurier, je lui dis, tiens, voilà une belle arme, alors que je n'étais pas particulièrement fanatique. Et puis...
vous faisiez du tir avant, déjà ?
J'ai commencé le tir il y a 20 ans.
D'accord, donc vous faisiez du tir moderne, avant de faire du tir ancien.
Mais encore dans un club aux armes modernes, mais encore, c'était, je tirais avec une arme américaine du 19e siècle, avec, à chargement, avec cartouche métallique. Oui. Mais c'était l'arme que l'on voit dans tous les westerns.
Hein, d'accord.
Et puis, ça m'a vite ennuyé. Et un jour, j'ai découvert l'existence de ce club, les arquebusiers du Lyonnais.
D'accord. Alors, pourquoi d'ailleurs ce mot arquebusier ? Enfin, c'est un choix de contexte historique
particulier.
Ah oui,
alors ça, c'était un choix délibéré des créateurs de cette association pour faire allusion aux premières arquebuses à mèche.
Oui.
Avec, alors là, c'était pire quand on pouvait se faire sauter à n'importe quel moment.
Et donc...
et nous avons encore chez nous... quelques fanats du tir à l'arquebuse, vraiment à l'arquebuse. Hein,
ceux qui aiment donc se faire sauter.
Voilà.
Et donc, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots, parce que c'est la question qu'on pose à chaque fois qu'on reçoit une association, enfin que Thomas pose d'habitude, du coup j'essaie de lui rendre honneur en la posant aussi bien que lui. Donc en quelques mots, que signifie pour vous l'engagement associatif ?
Ah bah, c'est de participer à l'association qu'on apprécie.
D'accord. Voilà,
c'est ça, un engagement et puis...
Pour vous, c'est l'engagement.
Oui.
Et bah, je vais maintenant vous laisser avec les questions des gones.
Si tu devais te comparer à une vedette de cinéma, à qui est-ce que tu te comparerais-tu ?
Je vous demande de vous arrêter.
When do you get to that point of enough is enough?
Never.
Donc Marie, je te vois t'agiter sur ton siège.
Alors on parle d'arquebusier depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des arquebusières aussi dans votre association ?
Hélas, il n'y en a qu'une.
D'accord.
Nous aimerions en avoir d'autres, et surtout des jeunes.
Pour de la bouteille. Ah, parce qu'en plus, elle est vieille.
Oh, elle est plus jeune que moi. Elle n'est pas plus vieille que moi, mais elle est plus jeune que moi.
Thomas, je sens que toi, tu as envie de poser des questions. D'habitude, c'est toi qui le fais, tu as un peu mal. Tu n'as pas eu ton,
ah oui, là, je me
ton content de parole.
Mal. C'est des armes, mais des armes anciennes. Alors, quand on évoque ça, je suis historien, il y a toujours ce spectre de des costumes, de la muséification, de ces choses-là, dont on va refaire comme si on était à l'époque, on va retirer avec des armes anciennes, on va refaire les batailles. Vous n'avez pas un peu l'impression de jouer à la guerre quand vous êtes sur votre stand et
ah non,
de reprendre des pratiques comme ça ?
Pas du tout. Et il faut alors pas du tout. Nous sur un stand, on fait des trous dans des cartons. On essaye de faire des points. Alors nous sur un stand de tir. On va compter les points. Quel est celui qui aura la plus grande maîtrise de lui pour resserrer le tir et afficher 100 sur 100 au lieu de 50 sur 100. Voilà.
Et puis le carton ne répond pas.
Le carton ne dit pas aïe.
Oui, aussi.
Et il ne tire pas dessus.
Et le tofu ne
tire pas dessus. Il vous tire pas dessus. Exactement.
Alors, petite question complémentaire, parce que Marie, tu m'as presque volé une des questions que je voulais poser. Sur
scandale
la... Mais oui, scandale. Alors, moi, j'avais trouvé une citation de Pierre Desproges qui disait.
Ah oui, forcément, monsieur Sramen, avec une question beaucoup plus classement formulée que la mienne. Merci.
Je n'osais pas le dire, mais tu n'as pas tort. Alors, Pierre Desproges disait. Les femmes n'ont jamais eu envie de porter un fusil. Pour moi, c'est quand même un signe d'élégance morale. Est-ce que du coup, quand vous portez un fusil, vous avez l'impression, Gérard, d'être particulièrement inélégant moralement ?
Oh, pas du tout. Yet. Non, non.
Toujours répondre en allemand aux questions sur les armes. C'est Charles Quint qui disait ça. Alors...
Mais ça tombe bien parce que je suis pleine d'incertitudes aussi, mais comme je suis égocentrique, ça va tourner autour de moi. Donc le problème, c'est que je suis myope, que je suis une droitière contrariée, que je ne suis pas souple et que je bouge tout le temps. Alors est-ce que je peux quand même venir renforcer vos rangs?
Non, tu fais peur
oui.
à tout le monde.
Alors, oui, bien sûr. Alors, si vous êtes mieux, portez autant que possible des lunettes.
S'il te plaît, comme vous.
Ensuite, vous bougez tout le temps?
Oui, ça se voit.
C'est excellent. Vous êtes obligé de faire un effort sur vous-même pour ne pas bouger, pour vous transformer en statue.
Donc, en fait, c'est du yoga, quoi.
Oui.
Et si je suis pas souple?
Pas besoin d'être souple. Pour tirer, pas besoin d'être souple.
Et si je suis droitière
comme une statue.
Et droitière contrariée, ça gêne pas pour tirer, non? On tire.
Alors, attends, tu pensais tirer comment exactement? Alors, dans une position particulière.
Vous êtes une droitière contrariée.
Tu fais le poirier quand tu tires à la carabine, c'est ça?
Les armes anciennes étaient toujours pour des droitiers, parce qu'il y avait très peu de gauchers à l'époque. Aujourd'hui, nos militaires, nos fabricants d'armes ont bien compris le truc. Une arme est ambidextre maintenant. Mais par exemple, une arme ancienne, la platine, la mise à feu étant sur le côté droit de l'arme, il vaut mieux être droitier pour tirer. Alors, on a quelques gauchers qui tirent à l'inverse des droitiers, mais ils peuvent de temps en temps avoir une petite brûlure au visage lorsque le coup part.
Mais c'est très classe. Donc, tu pourras draguer sur les plages avec ta brûlure au visage. Donc, merci pour cette interview. Un petit rappel des statuts pour finir. Donc, l'association Les Arquebusiers du Lyonnais a pour objet la pratique du tir sportif aux armes anciennes sportives, réglementaires et de chasse, donc de 5e et 8e catégorie. J'ignore tout à fait ce à quoi ça fait référence.
Ah, je vais vous expliquer.
Non, on a fini. Il faut arrêter, là. On rappelle la suite des statuts. Donc l'autre statut est l'étude et la collection des armes anciennes et plus généralement toute activité pouvant contribuer à la sauvegarde du patrimoine historique de la France dans ce domaine. Et enfin, l'organisation d'épreuves, compétitions et autres manifestations, dont le tir à la Marie-Ève sauvage.
Oh non, on n'oserait pas.
Donc, merci à tous pour ce numéro sans filet, avec quelques bafouillis d'ici de là. Merci à Gérard Avon d'avoir apporté sa pierre à l'édifice. Avant de vous laisser, une petite bibliographie rapide pour crier votre amour des profondeurs et enrichir votre aquaculture générale.
Ah oui.
Donc, à vous donner pour à potasser pour cette première semaine d'avril quelques romans et essais savoureux, avant tout, afin de vous mettre l'eau à la bouche, notamment le philosophique L'Anchois de Sophie de William Citron, Moby Dick, un roman érotique de Melville Poupeau à ne pas mettre entre toutes les mains, le très critiqué Merci pour ce Merlan ou encore À l'ombre des jeunes filles en fleurs, un roman immortel s'il en est. Ouais. Un bon film également, Le Sardinier de Congres, un film comique de Jacques Cousteau.
Celle-là elle était peut-être pas nécessaire.
Sans oublier 3 000 lieues sous les mers, bien sûr.
3 000 lieues sous les mers également.
Ce qui est bien avec Marie-Ève, c'est qu'elle au moins elle les écrit pas, ces jeux de mots pourris, tu vois. Ça sort naturellement.
Ensuite, pour les plus branchis d'entre vous, à voir ou à lire, le fameux best-seller adapté au cinéma 50 Shades of Grey, une histoire d'amour piscicole avec plus d'anal et d'urophilie que dans Nymphomaniac.
Oh non.
Pour les plus férus de culture, rappelons également le classique mais brillant opéra de Bizet, Carmen, un hymne à la bonne chère espagnole dont l'immortelle chanson La moule est enfant de Bohème a donné ses lettres de noblesse à la paella dans les années 1870.
Voilà, en fait, tu nous les fais toutes, quoi.
Je les ai gardées pour la fin.
Ah ouais. Mais là, tu déstockes, hein, c'est déstockage massif. Hein. On ferme boutique.
Nous voulions remercier également les blagues qui n'ont pas figuré dans ce numéro, malgré leur bonne volonté, notamment le savoureux et génial Méroupette, qui est quand même très très drôle.
Ah voilà, alors j'ai tout également à l'heure envisagé... on avait Francis Blanche. Là on est même avant Francis Blanche.
On est
une
époque qui prédate la naissance de l'humour sérieux.
C'est ça, oui, qui prédate, c'est-à-dire c'était ensuite, pas de l'humour déjà.
Je pensais dire bonjour à tout le monde en commençant par Chalut, tu vas bien, ce qui était également très très drôle.
Voilà, humour du 16e siècle maintenant,
Par ailleurs, à souligner.
Non, le degré zéro de l'humour.
Je tiens par ailleurs à souligner.
Le degré moins un, tu vois.
Que je n'ai presque pas fait de jeu de mots sur l'arrêt. Par ailleurs, et malgré mon envie démesurée, je n'ai pas une seule fois parlé de Christine Boutin, alors même que j'aurais pu la comparer à un certain nombre d'animaux aquatiques, ce qui aurait été assez vilain pour les thons, les tanches et les autres vaches de mer.
Ouais, oui, on aurait eu des problèmes après.
Notre sagesse du jour à emporter avec vous pour la fin de ce 1er avril sera ce proverbe, entendu bien souvent dans les étangs de la Dombe, le célèbre Carpe Diem.
Ariel, écoute-moi, chez les humains, c'est la pagaille, la vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont là-haut sur terre. Le roseau est toujours plus vert dans le marais d'à côté. toi t'aimerais bien vivre sur terre. Bonjour la calamité. Regarde bien le monde qui t'entoure. Dans l'océan parfumé, on fait carnaval tous les jours. Mais tu ne pourras pas trouver sous l'océan. Sous l'océan, doudou c'est bien mieux. Tout le monde est heureux sous l'océan. Là où il bosse toute la journée, esclavagé et prisonnier. Pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan.